Canalem, on aime l'été.
Pardon.
Ici Kevin Breton au micro aujourd'hui, accompagné par
Les Fortin et Maurice Bolduc.
Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30.
C'était pour dire nous sommes prêts.
Nous sommes prêts en pleine campagne électorale. Je ne sais pas si je me serais fait des amis ou des ennemis en disant ce vieux slogan. Le cas, c'était quand en 2000, campagne de 2008 du Parti libéral ou avant?
Je m'en souviens plus. Ils ont eu les mains sur le volant. Ils ont été prêts. Ils ont...
C'était Jean Charest qui avait. Ouais. Je pense que c'était quand Jean Charest avait été élu premier ministre. Donc ça devait être 2008. Mais ne m'en tenais pas rigueur. Tu me poses une méchante colle pour commencer l'émission.
J'ai pas posé de questions.
C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as juste tendu une perche. Puis moi, je mords dans tout. Très heureux d'animer cette émission aujourd'hui avec toi, Luc Fortin. Je vais vous parler notamment dans un instant des Bruins de Boston qui ont fait un don considérable aux Olympiques spéciaux qu'on connaît bien ici à Canal M. J'ai quelques informations à vous donner sur le sujet. Luc, tu vas aussi nous parler de sable.
C'est vrai, c'est avec ça qu'on commence. Il y avait des articles intéressants du côté du site internet de l'actualité de Radio-Canada, début du mois d'août. Donc, on y revient. On va causer également d'éducation.
Oui, on va s'entretenir dans un autre bloc avec Éric Giroux également, qui est directeur adjoint responsable de la recherche et des collections et chargé de projet commissaire de l'exposition Interreconnaissance. En fait, on va parler d'une mémoire citoyenne qui se raconte, une exposition qui débute la semaine prochaine, le 6 août jusqu'au 3 février, à l'Éco-Musée du Viermonde, un musée que moi j'aime beaucoup. On va lui demander s'il peut nous raccourcir son titre en même temps, M. Giroux. Sinon, comme à l'habitude, les chroniques de Benoît et de Christiane et d'Annick en fin d'émission. Tout ça dans un instant.
C'est un garçon énigmatique. Furet qui file entre les doigts. L'avez-vous vu passer par ici et repasser par là sans qu'il s'attarde une seule fois? Trois petits tours puis s'en va. Je ne sais pas s'il est sympathique. Par moments, on dirait presque un chat. Sa porte, ne pas jouer au plus fort, le laisser venir à soi. Trois petits tours et voilà. Seul dans mon bon cœur, j'entends l'appel de son âme, comme une douleur, une alarme, un cri du cœur. La vie, l'amour, c'est comme ça.
Françoise Hardy, trois petits tours.
Elle est professeure au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure. Elle est, en fait, mon experte parce que c'est une des personnes qui a été consultée par Radio-Canada lors de cette courte série de deux textes qui nous a encore une fois mis la puce à l'oreille sur ce souci qu'on devrait avoir à propos du sable et du possible manque de sable éventuellement. Claudiane Ouellette-Plamondon, tout en vous remerciant d'être là, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter parce qu'on voit de plus en plus de documentaires qui semblent tirer la sonnette d'alarme? En même temps, au Québec, avons-nous le problème en question?
Je vous remercie pour l'invitation de participer à cette entrevue. Alors, par rapport à l'alarme, je pense que au Québec, il n'y a peut-être pas d'urgence à court terme, mais il faut quand même bien gérer la ressource. Et puis, peut-être mieux s'informer sur les utilisations du sable, peut-être mieux comptabiliser les volumes, mieux comprendre ce qui est exporté, ce qui est utilisé au Québec, parce qu'on n'a peut-être pas tous les chiffres. Par rapport à ce qui se passe à l'international, oui, ça semble assez alarmant. On dirait qu'il y a des atteintes aux droits de la personne qui sont liées justement à l'utilisation du sable. Puis ça, c'est une question auquel il faut quand même réfléchir. Peut-être quand aussi on a des activités de tourisme à l'international, il y a beaucoup de sites touristiques qui pourraient être construits à partir du sable qui n'a pas été manipulé de manière nécessairement légale, écologique, équitable et tous ces autres termes.
Mmh. Parce que, bon, peut-être, parlons de la place que prend le sable dans notre société. On le voit dans nos carrés de sable, on le voit sur la plage, on le voit peut-être dans le désert, mais c'est un matériau essentiel à bien des égards.
Oui, oui, c'est sûr, parce que le béton, par exemple, on le voit partout, le béton, c'est la fondation des bâtiments, la fondation des maisons, c'est utilisé dans les routes, les ponts. Bien, il y a une grosse proportion de sable. Donc, c'est sûr que finalement, le sable, on pense que c'est souvent... c'est 25 à 30 % d'un mélange de béton, donc c'est quand même très fréquent. C'est aussi utilisé dans les fondations granulaires et aussi dans plusieurs parcs pour les aménagements. Donc, c'est vraiment présent dans notre vie. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est souvent recouvert, mais c'est très présent.
Ouais. Il me semble avoir déjà lu également que le verre était... Disons que le sable jouait un rôle dans la confection du verre.
Oui, c'est sûr que le verre, c'est fait à base de silice et puis le sable contient beaucoup de silice. Mmh. Donc souvent, la plupart du temps, il y a beaucoup de sable dans le verre qui est consommé.
Je vais poser une question qui peut peut-être paraître un peu anodine ou même idiote. Là. En tout cas, je vais risquer de paraître idiot en onde, mais le sable, là, ça vient d'où?
Bien, c'est de la matière, c'est des roches qui sont érodées. Hein, donc, c'est quand même un long processus géologique en général. Donc, c'est les roches, ben c'est les sédiments qui se sont accumulés en roches sédimentaires qui sont par après aussi érodés par le vent, par l'eau.
Aha.
Ça peut être aussi toutes sortes de roches qui sont érodées.
D'ailleurs, Claudiane, il y a deux types de sable.
Ou on peut dire oui. Alors, lequel vous pensez-vous?
J'ai vu que le sable du désert n'était pas le même que le sable que l'on utilise pour la construction.
Oui, c'est ça. Bien souvent, le sable qui vient utilisé en construction, ça vient de carrière. Donc, c'est sûr que des fois, il y a une partie du sable qui peut être un peu de la matière qui a été concassée. Ça peut être du sable aussi de rivière où il y avait vraiment des zones où il y a eu des rivières qui ont permis de créer du sable c'est souvent angulaire, le sable qui est utilisé en construction, tandis que dans le désert, c'est un sable qui est érodé de manière circulaire par le vent et puis ça s'empile moins bien. Hein, il y a des chercheurs qui s'intéressent même à la physique du sable. C'est des questions aussi qui intéressent, tu sais, depuis très longtemps un peu la civilisation. Parce qu'il y a des particularités. Un tas de sable, finalement, ça s'empile de manière triangulaire avec des angles qui sont connus près de 30 degrés. Ça, c'est quand même aussi fascinant que le sable, en fait, il y a des principes derrière son comportement.
En conversation avec Claudiane Ouellette-Plamondon, qui est professeure au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure ici à Montréal, je me demandais, Parce que, bon, vous l'avez mentionné, c'est très, très long au niveau de la régénération, si on veut, ou la production de sable. Quelles pourraient être les conséquences d'un manque de sable? J'ai vu, moi, qu'il y avait des plages qui se faisaient voler leur sable. Y a presque un marché noir. Et en même temps, il y a d'autres économies qui pourraient... Bon, au Québec, on en produit. Si on veut, on en a beaucoup. Donc, il y a des économies qui pourraient fleurir du manque de sable de d'autres contrées.
Oui, c'est sûr qu'il faut vérifier ce qui se passe. Hein. Comme au Québec, on a quand même... on a des... Si on peut penser au fleuve Saint-Laurent, on peut penser qu'il y a quand même plusieurs plages disponibles. Donc, c'est sûr qu'on pourrait penser qu'il faudrait un peu surveiller mieux nos berges, finalement, pour voir s'il n'y a pas des gens qui font de la collecte illégale. Puis après ça, c'est sûr qu'on peut penser comme dans le Moyen-Orient, on le voit à des endroits comme à Dubaï, par exemple. Bien, il y a eu tous des nouveaux complexes architecturaux qui se sont faits sur des nouvelles îles construites à base de sable. Il y a l'île de Singapour aussi qui essaie à... Singapour, c'est une ville qui est très prospère en Asie. Et puis, on sait qu'eux cherchent à augmenter leur territoire en allant chercher du sable ailleurs. Donc, en Asie, dans les zones très peuplées, je pense que c'est encore plus problématique parce qu'en fait, c'est même un problème qui est réel. Puis c'est sûr que nous, en tant que Québécois, Canadiens, on n'a pas nécessairement de contrôle sur ce qui se passe ailleurs, mais on peut peut-être mieux vérifier ce qui se fait chez nous.
Mais quel pourrait être l'impact d'un manque de sable? Parce que j'imagine qu'on va trouver d'autres matériaux pour construire.
Oui, c'est sûr. Oui, quand je vais dans des conférences scientifiques, il y a des gens, par exemple, dans les pays nordiques, hein, dans les pays comme en Suède, il y a des gens qui s'intéressent à faire du sable artificiel. En concassant des pierres. Et puis, on essaie de mieux contrôler, d'avoir des géométries intéressantes. Puis, ça se fait probablement au Québec aussi. C'est juste que peut-être qu'on en parle moins. OK? Et puis, donc, ça se fait du sable. C'est juste qu'on augmente les coûts de production. Parce que le sable, c'est quand même relativement un prix qui est assez bas. Donc, si on prend un mètre cube de béton, le sable, c'est pas très coûteux. Alors, si on prend du sable qu'on doit fabriquer, bien, on augmente son prix, donc on va augmenter les coûts de construction.
Mais en fait, ça se fait parce qu'on accélère l'érosion, on la provoque finalement, mais à un moment donné, on va manquer de ressources, non?
Bien, je pense qu'on a quand même suffisamment
de roches, oui.
On va au nord du Québec, il y a plein de roches, c'est juste que, il faut développer cette économie-là. Les activités qui sont liées, puis il y a des coûts engendrés, puis il y a aussi bien des impacts écologiques à tenir compte. Sûrement, il y a quand même des analyses à faire avant d'aller de l'avant.
Donc, pourquoi autant d'inquiétudes? Parce qu'il y a eu une certaine époque, surtout au milieu des années 2000, disons 2014, 2015, bon, Radio-Canada récemment, pourquoi les gens semblent s'inquiéter alors que ce que j'entends de votre part, c'est gardons l'œil ouvert, mais continuons de sourire, là.
Bien, je pense que c'est peut-être parce que c'est sûr qu'il y a des zones d'influence. Par exemple, je vais revenir à Dubaï et Singapour. Donc, c'est quand même il y a quand même des activités économiques importantes autour de ces villes-là. Et puis, il y a peut-être des activités touristiques qui sont liées. Puis après ça, bien, on sait pas aussi. Je pense que ce qui se passe, pourquoi on sonne l'alarme, c'est que on n'a peut-être pas l'information au Canada sur les données sur l'exportation du sable. Donc, peut-être qu'on a l'impression, c'est peut-être qu'on veut juste vérifier, on se sent peut-être un peu vulnérable parce qu'on sait que le Canada, c'est un pays de ressources naturelles. Puis je pense qu'on se rend compte présentement qu'on n'a pas nécessairement... les chiffres qui sont disponibles sur l'utilisation du sable, finalement.
C'est sûr que de déplacer le sable pour le touriste, que ce soit pour une plage et de creuser le fond d'une rivière ou de... Bon, ça va avoir des impacts au niveau de l'érosion. S'il n'y a pas de sable sur la plage, c'est sûr que ça amplifie le problème où la côte va s'éroder et les tempêtes, les raz-de-marée vont être encore plus forts.
Puis on le voit aussi, on le voit qu'il faut protéger nos berges contre les changements climatiques, le fait qu'on a des événements extrêmes plus grands, donc on a besoin de protection contre l'érosion, donc on a besoin de notre sable. On peut pas, il faut comprendre que il faut pas penser le petit profit qu'on va faire en vendant notre sable, il va peut-être nous coûter beaucoup plus cher pour toutes les mesures qu'il faut mettre en place pour par après reconstruire la berge et puis la protéger.
Ouais, intéressant.
Je pense que c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'est l'alarme. Parce ouais. Que, ouais.
Merci beaucoup, Claudiane. J'apprécie votre temps et votre expertise. Claudiane Ouellette-Plamondon, professeure au département de génie de la construction à l'ETS. Merci.
Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup puis bonne fin de journée.
Les pieds dans le sable blanc, il marchait sur la plage. Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âge, qui ne se doutait pas que j'entrerais dans sa vie et que pour moi l'été mettait son cœur en folie. Pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage, en cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages. Guidée par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur, et sous le ciel bleu, elle m'a donné tant de bonheur, que depuis ce temps-là, j'ai le goût de chanter. Le bonheur, c'est la mer. Lorsque revient l'été, le bonheur, c'est qu'on ait pu se rencontrer sur la plage ensoleillée. Sable blanc, elle marchait sur la plage, en cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages. Guidée par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur, et sous le ciel bleu, elle m'a donné tant de bonheur, que depuis ce temps-là, j'ai le goût de chanter. Les pieds dans le sable blanc, il marchait sur la plage. Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âge, qui ne se doutait pas que j'entrerais dans sa vie et que pour moi l'été mettait son cœur en folie. Pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. Les pieds dans le sable blanc, nous marchions sur la plage, en cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages, sans se douter que l'amour était là dans nos vies.
Le sable et la mer, Ginette Renault et Jacques. Ouh, blanc mémoire, Jacques.
Angé.
Merci.
Ben oui, allô, Boubou. Éric avez... Giroux, il faut que vous changiez votre titre, ça n'a pas de bon sens. Kevin va prendre au moins 2 minutes de nos 8 minutes ensemble juste pour dire qui vous êtes.
Sûrement qu'il y a moyen de simplifier ça, mais sur ma fiche, j'étais écrit directeur adjoint, responsable de la recherche et des collections et chargé de projet, commissaire de l'exposition Inter-Reconnaissance en studio. Mais on peut raccourcir ça à directeur adjoint de l'Écomusée du Fier Monde.
Oui, c'est ça.
Super. Bonjour, merci beaucoup, M. Giroux, d'être avec nous en studio aujourd'hui. Notre chercheuse Catherine a eu la bonne idée de vous inviter pour nous parler d'une exposition qui va commencer à cet Écomusée sur la rue Amherst à Montréal. Musée que j'aime beaucoup visiter parce qu'il est entièrement accessible en fauteuil roulant. Je ne sais pas si tu savais, Luc.
Ouais, je savais que tu aimais le musée, donc je me disais qu'il l'était.
Il était sûrement par là-bas, parce que je suis en fauteuil roulant. Donc oui, Catherine a eu l'idée de vous inviter en studio pour nous parler d'une exposition qui commence le 6 septembre prochain. De quoi va-t-il s'agir?
Ben, en fait, c'est une exposition qui a une longue histoire d'une certaine façon. C'est issu d'un projet de recherche qui a été réalisé sur plusieurs années par plusieurs professeurs universitaires de l'Université Laval, l'UQAM et aussi l'Université de Montréal, qui se sont donné comme objectif il y a plusieurs années de documenter l'histoire de la défense des droits de certains groupes minorisés. Alors, ils se sont partagés un peu cette tâche-là, ils n'ont pas pu tout couvrir, mais il y a différents secteurs qui ont été identifiés. Donc, secteur handicap, secteur santé mentale, secteur LGBT, secteur femmes, et un secteur migration, et un autre secteur transversal, celui des arts, c'est-à-dire comment dans ces différents secteurs-là, les arts ont été aussi un outil de revendication, puis d'implication et tout ça.
Donc, tous les groupes marginalisés auxquels on peut penser qui ont dû abattre.
Effectivement, les Autochtones sont les grands absents de ce chantier-là. À l'époque, il n'y avait pas de chercheurs au sein de cette équipe-là. Donc, chacun des chercheurs y est allé selon sa propre expertise pour documenter son secteur. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas personne. Puis de toute façon, on ne savait pas que ça allait donner une exposition. C'était vraiment un chantier de recherche pour mettre ça en branle, pour recueillir cette mémoire citoyenne-là. Donc, de faire des entrevues avec des militants, des militantes qui, au cours des 50 dernières années, ont été impliqués dans différentes luttes, dans tous ces secteurs-là. Donc, c'est des entrevues qui ont été enregistrées, qui ont été filmées. C'est des centaines et des centaines d'heures d'entrevues. Et ces gens-là qui ont participé aux entrevues arrivaient aussi avec des traces matérielles de ces luttes-là. Donc, ça peut être un
document. Des pages de journaux, par exemple?
Ça peut être un extrait de journal, ça peut être une affiche. Parfois, les affiches, c'était des outils de mobilisation importants. Ça peut être des photos de certains événements, comme des manifestations. Je pense, entre autres, à certaines photos de manifestations de groupes de personnes en fauteuil roulant qui réclamaient une plus grande accessibilité au métro de Montréal.
Il y en a eu à Montréal?
Il y en a eu à Montréal.
Ben oui, en 88, se pitchait. C'était les Américains qui étaient venus. Ça se pitchait dans les marches du métro.
C'est vrai!
Effectivement, c'était le groupe ADAPT des États-Unis qui était venu ici prêter main forte un peu au groupe montréalais, québécois, pour revendiquer une plus grande accessibilité du métro. Donc, c'est
ça
à la fois...
chic. Ouais.
Il y avait eu de quoi de semblable qui s'était fait en 2014 à Place des Arts, une série de personnes en fauteuil roulant qui avaient bloqué les escaliers juste en bas du métro. Je suis content de savoir que ce mouvement-là date pas d'hier.
Ouais. Donc, c'est un petit peu pour mettre les jalons de ces différentes luttes-là, dans ces différents secteurs-là, et d'illustrer ça à travers l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui sont présentés, qu'on peut regarder, entendre. Il y a aussi les traces matérielles. On a mis une infime partie de ce qui existe, mais ça permet quand même aux visiteurs de voir que la question des droits a été un outil important pour les groupes minorisés pour améliorer leurs conditions de vie, avoir accès à plus de services, etc., etc., et de voir les traces matérielles de tout ça. C'est un beau corpus qu'on présente.
Est-ce qu'il y a une place pour un regard transversal dans les luttes, dans l'exposition? Est-ce qu'on fait des liens entre les différents combats menés?
Effectivement, parce que comme le thème, c'est l'interreconnaissance, c'était d'arriver à essayer d'illustrer que, oui, il y a eu des luttes en silo, si on veut, mais que finalement, à certains moments, il y avait des convergences et que... on aurait peut-être intérêt en tant que société à une plus grande convergence de ces luttes-là pour arriver, tu sais, au lieu d'y aller chacun de notre côté. Et donc, c'est un petit peu l'idée qui était derrière
le projet.
En même
temps, les besoins sont tellement différents.
Exactement.
Parce que, supposons, LGBTQ+, à une certaine époque, était peut-être... on leur refusait peut-être l'accès dans certains clubs ou dans certains... Alors que pour une personne en fauteuil roulant, oui, on avait un problème d'accès, mais d'un autre ordre. Donc, ça pouvait devenir difficile parfois de s'associer, j'imagine.
Oui, effectivement. Et c'est donc là que la notion de droit est comme le lien entre tout ça. Parce que les gens se sont appuyés sur les droits.
Les droits fondamentaux,
en tant qu'être humain, j'ai un certain nombre de droits. Et ça, c'est universel. Donc, c'est pour tous les groupes. Et donc, comment se sont-ils appuyés sur cette notion de droit-là, justement pour atteindre certains objectifs comme l'accessibilité des lieux, comme l'accessibilité, par exemple, l'accès au mariage dans le cas des personnes LGBT pour avoir les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel. Donc, c'est...
Éric Giroux, j'ai vraiment l'impression que cette exposition-là pourrait même intéresser plein de gens qui sont de l'extérieur de Montréal, alors que souvent, l'Écomusée du Fiermonde va, disons, nous aider à mieux comprendre certains aspects de Montréal, comme souvent les droits ou les avancées sociales de ces groupes-là ont vu le jour à Montréal, mais ont eu des répercussions à travers le Québec. Est-ce que, je comprends que c'est jusqu'au 3 février et vous allez peut-être me dire, les gens ont le temps de venir, mais est-ce que sur le web, il y a une possibilité que les gens puissent profiter de ce contenu-là s'ils sont de Rouyn ou de Val-d'Or?
En ce moment, non.
OK.
Et ça ne fait pas partie à court terme de quelque chose sur lequel on travaille. Ce qui existe, par contre, c'est qu'il y a un ouvrage publié par les chercheurs qui s'appelle Interreconnaissance, la mémoire citoyenne du Québec, quelque chose comme ça. Là, je peux me tromper dans le titre exact. mais c'est un livre qui va être lancé justement le soir du vernissage la semaine prochaine.
Le 6 septembre.
Le 6 septembre, okay. Et qui est disponible, on peut l'acheter en ligne.
Okay.
Et donc, c'est la réflexion, c'est un peu plus scientifique, si on mm-hmm. veut, un peu plus académique, que les chercheurs ont posé sur chacun de leurs secteurs et sur l'interreconnaissance et l'importance des droits et tout ça. Donc, ça se trouve dans ce livre-là, dans lequel il y a un certain nombre d'illustrations aussi, parce que, bon, il y a des photos de certains éléments qui se retrouvent dans l'exposition. Donc, ce livre-là existe. Mais aussi, je dois dire que l'exposition se termine, oui, à Montréal, le 3 février, mais elle va être présentée quelques semaines plus tard au Musée de culture populaire à Trois-Rivières.
Ah, c'est chouette.
Et il y a, là, je peux pas rien confirmer, mais il y aurait probablement d'autres présentations ailleurs au Québec okay. au cours des prochaines années.
Il y a moyen de faire venir l'exposition, si on est un musée qui nous écoute quelque part à Sherbrooke ou à Québec, il y aurait moyen d'entrer en contact avec vous pour la transporter.
Oui, oui, oui.
Ça
oui,
se transporte
oui.
très bien comme exposition.
Ben, elle était conçue pour être itinérante, donc okay. il y a des aspects qui peuvent voyager très bien. D'ailleurs, elle était présentée à Rivière-du-Loup là, cet été. Là.
Okay.
Elle a commencé à Rivière-du-Loup, mais la version plus finale, plus aboutie, ce sera à Montréal.
Est-ce que vous avez sous la main le nom du chercheur qui a travaillé pour les dossiers concernant le handicap? Moi, je suis juste curieux de savoir.
Patrick Fougérolas.
Ah, ben oui, Patrick Fougérolas, le père du PPH, qu'on appelle le processus de production du handicap. Ben, super, c'est super. Puis moi, je suis vraiment content parce que, Luc, tu l'as soulevé tantôt quand on parlait d'approche interreliée ou d'approche transversale. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi des luttes les uns les autres. Tu sais, je pense, par exemple, au groupe LGBT ou féministe. Combien de fois je voyais des événements qui se disaient inclusifs dans un lieu inclusif, qui se faisaient dans un lieu qui était inaccessible en fauteuil roulant ou qu'on menait de front le ouais. combat des toilettes unisexes, mais si la toilette unisexe, elle est inaccessible, ah ouais. on n'est pas plus avancé. Ouais. Fait que je pense que pour n'importe quel groupe marginalisé qui va se rendre à cette exposition-là, de jeter un œil sur les autres combats qui ont été menés, mm-hmm. ça va pouvoir aider à la convergence des luttes pour une plus grande égalité.
Vite, vite, Eric, bon, Kevin se pétait les bretelles pour pouvoir y aller. Moi, est-ce que je vais pouvoir profiter de l'exposition? Est-ce qu'elle est vraiment accessible pour tout le monde ou juste pour Kevin Breton et les ceux qui voient?
Ben, on a essayé de faire le maximum.
Oh.
Par contre, pour les personnes à faible vision, il n'y a pas d'expérience particulière en lien okay. avec l'exposition.
Okay.
Ce qu'on propose plutôt, c'est d'accueillir des groupes.
Et de lire les affiches.
De présenter le contenu de façon ouais. plus dynamique, parce qu'une lecture d'affiches, c'est moins intéressant, mais la description des éléments qui sont présentés, parce qu'il y a des éléments visuels qui sont assez intéressants.
C'est du 6 septembre, désolé, il ne reste oui. plus de temps, ça va couper. 6 septembre au 3 février à l'Écomusée du Fiermonde de Amherst et Ontario. Merci beaucoup, Éric Giroux.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Est-ce que tu aimes l'été, Kevin?
Ben oui,
maintenant que la saison est presque terminée.
Il était temps que tu me poses la question qui brûle absolument aucune lèvre. Est-ce que Kevin aime l'été? Oui, j'adore l'été juste parce que j'aime pas l'hiver. Fait que j'aurais l'air beaucoup trop okay. chialeux et cynique si j'aimais pas l'été. Par défaut, j'aime l'été.
Ouais. On va causer des Bruins, en fait, des Olympiques spéciaux?
Oui. On peut dire ça comme ça, les Olympiques spéciaux, les Bruins, disons, c'est un peu plus le prétexte pour mettre la table au sujet.
Et chronique sociopop avec Benoît après la pièce que Maurice nous lance.
Je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Je vais rester tranquille, je vais payer mes billes. On va apprendre l'anglais, on va l'apprendre pour de vrai. Je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a mettre mes bobettes, m'a lire la gazette, m'a checker les sports, m'a compter les morts. M'a passer mon check-up, m'en va faire mon ketchup. On va voir ce qu'on va voir, m'a me forcer en six mois. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a avoir l'esprit d'équipe, impliquer toute l'équipe. Camper en masse, m'a me tailler une place. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a gravir les échelons, m'a comprendre mon patron. M'a faire un semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop, mais c'est aidé. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand je vais être un bon gars, m'a
m'en vais les inviter, m'en vais faire un party. Des sushis, des trempettes, amène-en mon amène. Moment déboucher une fois n'est pas coutume. Voilà, tout le monde va se mettre, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, PDG, OCQ, OLP, IGA. Et moi, si mon bord m'a tombé dans le bord, à 11h15, m'a écrit CDA, m'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val d'Or. Bon, ben là, ça va faire, m'a descendu dans l'enfer. M'a flambé ma paye, m'a allé vendre des bouteilles. M'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal. M'a viré sur le top, pas de cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom, tatoué sur son front. Elle va dire enfin un bon gars. Après ça, après ça, je vais être un bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. Rester tranquille, m'a payé mes billes. M'en va apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai. Oh, sports, math and blood. Ils vont m'aimer en érode. Excellent citoyen, pas parfait mais pas loin. M'en manger du poisson, m'en faire du ski de fond. M'en m'acheter des records de Michel Rivard. M'en faire un semblant, c'est intéressant. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac.
À MLT, vous entendiez Le Bon Gars par Mathieu.
Ça, c'est tiré d'un album. Toi qui aimes Claude Pelgag.
Oui.
Je sais pas si t'as entendu la version de Claude. Les Yankees avec. Oh, il est super connu. Il y a un petit roux qui dit. En tout cas.
Un chanteur, petit roux.
Ouais.
Pas Philippe Braque.
Oui, c'est ça, c'est lui.
Ben, il
alors, très belle version des Yankees. Tiens, trouve-nous ça
pour la suite.
Avant la fin de l'émission.
Elle est peut-être longue.
Elle peut-être longue.
On fadera.
Benoît, on se réjouit parce que Kevin est parrain.
Oui,
hein?
C'est beau.
Moi, je l'écris sur tous les toits.
Salut Benoît Racette.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, à un moment donné, Maurice va te débaillonner.
Oui.
Ah, OK, parfait, parce que là, on t'entendait pas. Là.
Bon, là, c'est magnifique. Je suis dans la course avec vous.
Tout à fait.
Bon.
Parle-nous d'école.
Ah, ben ça, c'est le sujet de l'heure, je pense, non?
C'est la rentrée.
Écoutez, j'ai envie de vous faire popper aujourd'hui l'inclusion dans les classes, mais j'entends tous les professeurs qui disent « Non, on ne veut pas parler de ça, on n'a pas assez de ressources, c'est compliqué. Mm-hmm. » Faites-vous-en pas, on ne parle pas du primaire, du secondaire tout de suite. On parle du post-secondaire.
C'est vrai.
Bon, allons-y avec ça. Je me base pour vous présenter ma chronique aujourd'hui sur une étude qui s'intitule « L'inclusion des étudiants en situation de handicap au post-secondaire. Besoins, défis, enjeux. » C'est Doucet et Filion qui nous proposent. Hein?
C'est la firme.
Oui, à la rigueur, c'est une firme. C'est presque ça. Mais j'aimerais quand même rappeler, et c'est dans l'étude qu'on apprend, le contexte qui nous amène à jaser ça aujourd'hui. Vous le savez, là, prendre en compte, disons, des besoins particuliers d'élèves ou accommoder, en tout cas, évidemment pas avec ce vocabulaire-là, ça date de maximum 50 ans. Hein, c'est assez récent dans notre histoire.
C'est sûr.
Et il y a eu en 69, après la création du ministère de l'Éducation en 64, la création du Bureau de l'enfance exceptionnelle. Avant ça, vous vous en doutez, là, c'était...
Ça s'appelait l'enfance exceptionnelle.
C'est magnifique. Hein?
OK, moi je me souviens de... C'est-tu mésadapté?
C'est après.
Inadapté. J'étais un enfant inadapté.
Ben, je suis désolé, t'es dans la mouture d'après.
Ouais, donc, ben oui.
Qui a été créé en 1969.
Pas si vieux que ça, Luc.
Ma première année était en 69, mais je savais pas que j'étais un enfant. Qu'est-ce qui était en 69?
Ben, le nom de ce bureau de l'enfance exceptionnel est devenu le service de l'enfance inadapté.
À inadapté.
Méchante drap.
C'est plat.
Méchante drap.
Bon, mais évidemment, bon, toutes les choses ont évolué, on le sait bien. Dans les années 70, 75, 78, la charte au Québec, 82, la charte canadienne, ça a évidemment obligé sur le plan juridique à ce que toutes les institutions publiques offrent des accommodements, ne laissent pas les personnes qui ont un handicap. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça a comme obligé à réorganiser les services. Mmh. Après ça, là, je fais un gros bond là, des années 70-80 jusqu'aux années 95 à 2007. Il y a eu un accroissement phénoménale du nombre de personnes en situation de handicap, du nombre d'élèves en situation de handicap au postsecondaire. En fait, 330% dans le réseau collégial, doublé dans le milieu universitaire.
Est-ce que c'est une augmentation du fait qu'on a éliminé certaines barrières pour permettre aux personnes d'accéder au cégep ou aux universités, ou c'est plus à cause d'un nouveau diagnostic qui a été fait des personnes, des élèves TDAH, par exemple?
La puissance des diagnostics, elle est un peu dans la période d'après. Là.
Okay.
C'est particulièrement...
Ouais, c'est plus récent, ça.
En fait, après 2007 jusqu'à 2015, là, évidemment, ce qu'on appelle les clientèles émergentes...
Okay, j'avais compris que tes chiffres, c'était de 95 à 2017. C'est 95 à 2007.
Oui.
OK, parfait.
C'est important de préciser. Merci. Mais donc...
Mais qu'est-ce qui est venu avant, Benoît? Est-ce que les conditions qui ont motivé et facilité l'accès, ou c'est le volume d'étudiants qui a forcé le ministère à améliorer les conditions? Parce que moi, j'ai pas connu ça, les preneurs de notes rémunérés, ouais. Et les nouveaux appareils également.
Exact. Ben, il y a plusieurs phénomènes. Hein. On retrace en fait des enquêtes qui sont plus, je dirais, loquaces sur ces questions-là, mais de 1995 à 2007, il y a évidemment plus de programmes, une augmentation effectivement des personnes qui sont pas institutionnalisées. Il y a des remises en question aussi des écoles spécialisées. Il y a tout un mouvement même qui se passe là. Mmh. Puis ça affecte peut-être les premiers groupes, c'est-à-dire les personnes en fauteuil particulièrement, les personnes aveugles, etc. Ce qui se passe après, c'est ce qu'on appelle les clientèles émergentes. Là. Donc, toute la série TDAH, troubles d'apprentissage, dysorthographie, dyscalculie. Donc, ce grand groupe-là, c'est le plus impressionnant. En fait, c'était presque 10 000 étudiants qui s'étaient inscrits dans les services adaptés en 2014-2015. Voici le portrait jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça commande, qu'on se pose la question, comment on fait pour que ça fonctionne?
Ouais.
Comment on y arrive? On parle évidemment pas des ressources dans cette étude-là. On parle pas du fait que les profs, c'est pas facile. On se concentre sur l'étudiant. Les premières clés, c'est ce qu'on appelle les habiletés d'autodétermination. Là, je mets un blanc, là, intentionnellement.
Habileté d'autodétermination.
Ouais, ça vous parle-tu ou...
Moi, ça me dit rien.
J'aurais de la misère à le définir aussi.
Qui doit s'autodéterminer?
Oui, voilà. Bon, pas de critique. Moi, ça me dérange de cette étude-là, mais quand même, ils ont... relever que, par exemple, si un élève, un étudiant au cégep ou à l'université, dès le début, prend contact avec son conseiller, par exemple, parle tout de suite au professeur,
se prendre en main,
okay. Il y a évidemment une plus grande réussite. Souvent, le problème, et c'est un peu plate, c'est que la personne se signale en cours de session, et là, bon, évidemment, les professeurs n'ont rien aménagé, personne n'est au courant, et la personne est à risque d'échec, tout simplement.
Mais pourtant, ça arrive plus souvent que tu vas le faire en cours de session qu'avant.
Ben
c'est
oui.
Souvent pendant que tu fais les épreuves, les cours que tu vas réaliser, que tu as certains troubles d'apprentissage. Là.
C'est ça, exactement.
C'est rarement en jouant ballon l'été là, que tu vas découvrir ça.
Effectivement, mais normalement, on découvre ça...
Au
cégep, à l'université, en principe, on le sait, mais il y a des diagnostics pour le TDAH tout au cours de la vie. Dans les choses qui fonctionnent, donc c'est ça, les personnes clés, là, c'est le conseiller aux étudiants en situation de handicap. Ça donne un sacré coup de main, c'est souvent quelqu'un aussi qui aide à convaincre les profs qui seraient plus récalcitrants, qui explique les situations puis qui donne du soutien. Les orthopédagogues, quand ils sont en nombre suffisant aussi, c'est utile. Et on parlait du preneur de notes là. Dans cette étude-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'il est déterminant. Ce preneur de notes-là.
Ah oui, à ce point-là.
Parce qu'il se passe une espèce de co-construction. On parle de co-constructivisme, donc manière de comprendre le monde, etc. Entre les deux, sur la situation, le preneur de notes apprend de la personne, la personne aussi, puis en échangeant avec elle, elle comprend mieux comment elle apprend.
C'est ça, c'est pas une machine, c'est un humain. Puis, ça a plein d'allure.
Voilà. Les autres, il y a deux autres séries de grandes questions reliées à cette inclusion au postsecondaire. Il y a évidemment les perceptions d'un côté et quelque chose comme un cri du cœur de la part des profs. Hein? Ils ne savent et elles ne savent pas comment baliser les accommodements. Hein? C'est une grande question, ça!
Mais en même temps, comment se fait-il que dans leur bac... de 4 ans et plus, là, parce qu'on est au postsecondaire, ce n'est pas exploré, ces questions-là. quoi faire avec l'étudiant qui a des besoins particuliers.
Vous avez complètement raison. En fait, ça ne figure pas obligatoirement. C'est sûr qu'il y a des sensibilités à certains endroits, mais ça devrait en faire partie. Tu sais, d'informer sur les droits, comment on gère l'accommodement, etc. Ouais. Tu sais, si on le fait, il y a beaucoup de cours de pédagogie qui sont offerts, même maintenant au collégial. Il y a de plus en plus de professeurs qui sont formés en pédagogie. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un cours là, qui vient...
Ouais.
Qui vient avec sur les accommodements spécifiquement. Là.
Dans le cursus.
Dans le cursus. Ouais. Ou même faire venir la commission là, qui a un service, une expertise.
La commission scolaire, tu veux dire? Ou la commission des droits
de
la personne.
Okay. Ouais. Enfin, bref. De l'autre côté, évidemment, il y a quelque chose de difficile, là, que ça va prendre du temps à améliorer, enrayer. Ce sont les perceptions, hein, les attitudes.
Maurice va te faire signe, Benoît, que t'as plus de temps, mais c'est qu'il y avait une après, fait que c'est pas grave.
Ah, c'est correct. Non, moi, je parle juste des brooms.
C'est ça.
Mais je vais respecter le temps, ne vous en faites pas, je pense que c'est une bonne manière de finir même. Les perceptions, bon, non seulement les profs sont pas sûrs de comment accommoder, mais parfois, c'est très ancré chez les professeurs, on taxe un peu les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, de paresseux, dans notre esprit, ils font pas leur bout de chemin, alors que parfois, c'est surtout parce que les élèves en sont pas capables. Donc, il y a un travail quand même à faire sur le plan des attitudes, des perceptions. Et ben, quand on va y arriver, ça va aller mieux.
Ben oui.
Oui.
Puis on va y arriver graduellement.
Voilà. Ouais. Patience, enseignement et détermination.
Ben, c'est
autodétermination.
C'est patience, mais en même temps, faites-vous entendre, faites-vous voir, réclamez ce qui est...
Autodéterminez-vous.
Oh, bravo. Salut Benoît Racette.
Merci, à bientôt.
Merci Benoît.
Oh, écoute ça Kevin. Il l'a trouvé.
Traverser le corps de bord en bord. Nous les derniers humains de la terre. Le vieux Achille dit à soi, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet. Allez, dormez en thank you.
débarqua dans la clairière et disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loadé de guns, s'avance et pogne le mégaphone.
Nous venons de la part du Big Control. Son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout, tout, tout conquis, jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en Amérique. Believe me. Maintenant assez de discussion et signez-moi la reddition. Car bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie. V'là les Yankees, v'là les Yankees, easy come, easy go, v'là les gringos. Alors je compte jusqu'à trois et toutes vos filles pour nos soldats. Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le champ de l'ancien, tout désormais nous appartient. Et pour que tous aient bien compris, je compterai deux fois. Et pour les news, la NBC, tell me, my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève.
Le soleil se leva. Nous avons traversé les continents, les océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves.
Très belle version des Yankees de Richard Desjardins par Claude Pelgag et Philippe Braque.
Surtout que, ben, faut le dire, hein, le problème avec la version originale, c'était la voix de Richard Desjardins. Alors que oui. Là, on est vraiment, vraiment, vraiment gâtés avec la plume et l'aspect auteur et compositeur de Desjardins, mais avec deux belles voix. Pourquoi tu veux me parler des Bruins?
Pourquoi je voudrais te parler des Bruins de Boston? Mais Luc, parce que là,
le camp d'entraînement n'est même pas commencé.
Ben dans trois semaines, ça va être les matchs pré-saison. On approche.
Ouais, ouais. Dans trois semaines, l'Impact joue contre je sais pas qui encore.
Bon, ben Luc.
Moi, je suis soccer, tu le sais.
Je sais, mais je suis sûr que tu vas être bien content de t'asseoir sur ton divan c'est le sûr. 3 octobre quand le Canadien va recommencer sa saison face aux Leafs. Pourquoi les Bruins, leur éternel rivaux canadien, ont attiré mon attention mardi, plutôt cette semaine? C'est qu'ils ont annoncé un nouveau partenariat entre l'équipe et le chapitre local des Olympiques spéciaux. Donc, ce que la fondation a annoncé, en fait, c'est un don $1 million réparti sur les trois prochaines années. Okay. C'est pas rien quand même. On entend souvent parler des équipes qui appuient différentes causes, mais là, c'est un engagement majeur, là, 1 million sur 3 ans. C'est pour promouvoir l'inclusion et le mieux-être des personnes athlètes avec une déficience intellectuelle. Puis c'est rien de moins que la plus grande implication philanthropique de l'histoire des Bruins de Boston depuis que sa fondation a été mise sur pied en 2002.
Est-ce que ce sont les Olympiques spéciaux du Massachusetts, des États-Unis?
C'est vraiment pour le chapitre local.
OK, t'imagines un million pour un chapitre local, c'est beaucoup d'argent.
Exactement, parce que c'est quand même effectivement un très gros mouvement Olympique spéciaux, tu fais bien de le mentionner. Puis bon, 1 million, c'était réparti à travers les 170 pays puis les 4,2 millions d'athlètes qui y participent, ça serait pas tant. Mais là, c'est pour le chapitre local. Olympiques spéciaux, c'est une grosse année qu'ils entendent parce que ce sera leur 50e, leur 50e anniversaire.
Comment ça a commencé tout ça?
Ben, c'est commencé avec, au Canada, ça je le savais pas quand j'ai commencé mes recherches. Il faut remonter dans les années 60. Lui qui est vraiment à l'origine ou la bougie d'allumage là, de ce mouvement-là, c'est le docteur Frank Hayden, qui était un professeur à Toronto, qui étudiait les bienfaits du sport chez les personnes avec une DI. Je veux dire DI pour sauver du temps dans notre chronique pour déficience intellectuelle. Il a démontré clairement que si on donnait l'occasion aux personnes avec une DI de pratiquer une activité sportive, non seulement ça les aidait sur le plan des habiletés motrices, mais aussi sur celui des compétences sociales. Ça a attiré l'attention d'une certaine Eunice Kennedy Shriver de la Fondation Kennedy à Washington, qui a entendu parler des travaux, puis ça a amené à la création un petit peu plus tard, en 1968, donc il y a 50 ans, de Special Olympics Incorporated.
Aha.
Les premiers Jeux olympiques spéciaux ont donc eu lieu à Chicago en 1968. Il y avait seulement le Canada et les États-Unis qui était pays participant à cette époque. Puis l'année suivante, Olympiques spéciaux ouvrait là, sa section, sa division canadienne. Au Québec.
Mais encore deux pays. Parce que ça, c'est quoi? C'est à chaque année, chaque deux ans? Je pense pas que c'est aux quatre ans. Hein?
Non, c'est ça. À chaque année, il y a des compétitions locales.
Mais internationales?
International, là, je ne suis pas certain, mais je pense qu'effectivement, c'est aux deux ans et non pas aux quatre ans. Puis non, effectivement, là, à ce moment-là, c'était seulement deux pays encore qui y participaient. Mais là, aujourd'hui, c'est 170 pays, 4,2 millions d'athlètes de tous âges. Je le précise parce que souvent, on a en tête qu'Olympiques spéciaux, c'est juste pour les jeunes, les enfants, les 18 ans et moins. Mais il y a des personnes plus âgées qui vont également participer à ça. Au Canada, il y a 34 000 athlètes et en tout 7 200 programmes un petit peu partout au Québec. Au Québec, c'est en 1981 que le programme a été mis en place grâce à une certaine Noëlla Douglas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la suite des choses pour le mouvement olympique spéciaux? Je l'ai dit, la première compétition a eu lieu à Chicago, donc on va retourner là où tout est né pour célébrer le cinquantenaire. Déjà la semaine dernière, il y a d'autres grands événements qui ont eu lieu. Puis déjà la semaine dernière, il y a le lutteur montréalais Kevin Owens de la WWE qui a participé à un match caritatif qui a été rebaptisé le Smile Slam. Plutôt que le Super Slam, ça avait lieu à Brooklyn. Puis probablement qu'on va voir beaucoup d'autres entreprises et équipes sportives s'associer à la cause en raison du 50e anniversaire. C'est quand même une cause assez noble. Je pense qu'il a fait ses preuves.
Et c'est de bon ton également. Là.
Tout à fait.
Il n'y a pas
de risque de mal paraître, de s'associer à une œuvre puis que ça paraisse mal dans deux ans. Là.
Non, c'est ça, exactement. Puis bon, si tu prends juste au Québec... Annie Pelletier fait un très, très bon travail de porte-parole.
Et Alexandre Bilodeau aussi.
Autant que c'est ça, quelqu'un dans sport d'été, quelqu'un en sport d'hiver. D'ailleurs, les Olympiques spéciaux, c'est uniquement des sports d'été. On n'a pas d'Olympiques spéciaux d'hiver.
C'est vrai. Je ne sais pas si c'est pour une raison logistique ou... pourtant, je suis certain qu'il y aurait également un intérêt puis un attrait à pratiquer, par exemple, le snowboard pour les jeunes avec une déficience intellectuelle.
Est-ce que tu sais combien il y a de disciplines, Kevin?
Il y a 7000 programmes, fait que j'imagine qu'ils sont répartis en au moins une centaine de sports différents.
Je sais pas.
Je pourrais vérifier si tu veux pendant la pause pour t'en venir.
Parce que j'ai souvent vu de l'athlétisme.
Ouais.
Lorsque RDS diffuse, il me semble que c'est souvent de l'athlétisme, mais il y a assurément autre chose.
Il y a beaucoup de natation. Moi, au Signal, j'avais reçu une athlète qui faisait de la natation aussi. Je pense qu'il y a un petit peu plus de sport individuel qu'il y a de sport d'équipe. Faut dire qu'il y a une grande masse de la partie de la population qui participe aux Olympiques spéciaux qui est atteinte du trouble du spectre de l'autisme. Mais semble-t-il, je ne veux pas généraliser, il y a des exceptions, mais souvent chez les personnes autistes, le sport individuel est beaucoup plus facile à pratiquer.
Ils s'entendent mieux avec eux-mêmes.
Oui, c'est ça, pour le dire drôlement. Puis aussi, ben les sports où la compétition est plus ou moins présente, là, eux, l'idée d'avoir deux groupes ennemis qui s'affrontent, ça rentre un peu mal dans leur tête.
Bref. Ben, on se souvient probablement de l'image, plusieurs ont vu cette image où, je ne sais plus c'est en quelle année, ça fait peut-être 10-15 ans, là, le deuxième tombait, le premier a arrêté de courir, il est allé l'aider à se relever, puis ils ont continué. Bon, on aime ça,
c'est dans
ça.
L'esprit, tout à fait. Puis les Olympiques spéciaux ont aussi servi de tremplin pour des athlètes. Là, ça, j'ai appris ça, j'étais pas au courant. Je vais vous faire entendre un extrait d'un joueur de la NFL qui a commencé sa carrière avec les Olympiques spéciaux. Il va nous expliquer comment, en fait, les Olympiques spéciaux sont entrés dans sa vie.
You gotta get up and you gotta tell the story to the world. When I was a boy, I had trouble reading. I found out I had learning disability. I was afraid. I was lost.
Being raised up in different household and put on label, retarded, not smart, you would never go to college. It was always hard for me.
People made fun of me. They said I would never go anywhere. But I learned I can fly.
C'était Jamal Charles qui est running back pour la NFL, donc il nous disait à quel point qu'on riait de lui avant que les Olympiques spéciaux lui donnent confiance. Il a joué dans la NFL, ça fait partie d'un documentaire que ESPN produit, 15 Game Changers, c'est diffusé le mercredi lors de leur bulletin de nouvelles pendant toute l'année. C'est également disponible sur leur site internet si vous voulez écouter. Sinon, ben, on continue à suivre les Olympiques spéciaux qui retournent à Chicago pour une semaine d'activité pour célébrer leur 50e anniversaire. Ben, c'est ça pour les Olympiques spéciaux, Luc.
Merci, Kevin. Vraiment intéressant. Christiane s'en vient nous quizzer après la pause.
Jeudi passé.
Les ABBs, fil de téléphone.
On les aime.
Ben oui, pour qui on a une passion commune, Luc, les ABBs, moi aussi je les aime.
Une passion, le mot est peut-être un peu fort chez moi, mais je les écoute régulièrement.
Ok, ben mais moi, c'est une passion.
Mais toi, ben oui, toi,
moi j'ai un livre de scrapbooking avec leurs photos que je découpe, puis comme c'est une passion, les
D'ailleurs,
ABBs.
Tu connaissais tous les mots de la toune?
Pratiquement tous. Ouais, ouais. J'ai pas une belle voix, mais à ma défense, je connais les paroles.
Ben, c'est pour ça que je parle à Christiane, pour essayer de me déconcentrer de ce que j'entendais qui était difficile à supporter. Salut, Christiane Campagnan.
Salut, messieurs.
Hey, j'ai presque triché ce matin. Je savais que tu allais nous quizer sur les stations de métro.
Oui.
Je suis allé sur Wikipédia, j'ai tapé nom des stations de métro. J'ai vu qu'en Grignon était un ancien échevin du coin de Côte-Saint-Paul. Puis après ça, je dis à Luc.
Ah, il n'est pas dans mon quiz.
C'est pas ton genre. Arrête de faire ça. Il n'est pas de toute façon.
Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais tester vos connaissances sur les noms de certaines stations de métro. C'est donc un sujet qu'on pourrait penser assez montréalais, mais ce sont des noms propres historiques qui reviennent ailleurs dans la province, j'en suis persuadée.
Ben oui.
Il faut se rappeler aussi que les stations de métro sont toujours nommées à partir d'une rue ou d'une place à proximité. On nomme jamais directement la station de métro. Et on va commencer. Tiens, avec quelle station de métro porte le nom d'ancien maire de Montréal?
Honoré Beaugrand.
Hey, non, mais là, on va attendre. Il va y avoir des règles. Christiane va nous dire, dis-nous vos réponses maintenant, puis on va les dire.
OK.
Parce ça que va là, être long comme ça.
Non, mais je veux pas que ça soit lui
Honoré,
qui crie.
Oui, Honoré Beaugrand, mais c'est la preuve que Luc, il faut dire qu'il animait ce jour-là, a bien écouté ma chronique qui portait sur Honoré Beaugrand.
Jean Drapeau.
Ben, non, mais je savais celui-là aussi, je voulais
le
dire.
Mais le troisième, hein? Parce que. Jean Drapeau, qui en passant fait 8 mandats, dont 7 consécutifs.
Lucien Laillier?
Non.
Oh. Ben, je sais pas.
C'est Préfontaine. Il s'agit de Raymond Préfontaine, qui a été maire de Montréal de 1898 à 1902. Mais c'est quelqu'un qui a marqué la politique montréalaise pour le meilleur et pour le pire sur une bien plus longue période. Il a été maire de la municipalité d'Hochelaga jusqu'à son annexion à Montréal en 1883. Il est alors devenu échevin de la ville de Montréal et autant dans son rôle d'échevin que de maire, il a beaucoup favorisé l'Est de Montréal en faisant beaucoup de développement d'infrastructures, ce qui lui permettait de se rendre populaire auprès de la population francophone de Montréal, en plus de remplir les caisses électorales, puisque à cette époque-là, les infrastructures, électricité, eau, tout ça, c'était fait par des compagnies privées.
Es-tu en train de me dire que l'électoralisme n'est pas un principe qu'on a inventé lors des présentes élections?
Il y a même eu une commission d'enquête sur la corruption municipale à ce moment-là.
À cause de ça. Préfontaine, une des seules stations où le toit est en vitre.
Oui, oui, en effet. Il y en a quelques autres dans l'ouest là, où Champ on est
Mars?
Presque, ou qui sont vraiment pas très creuses.
Champ de Mars.
Le toit est en vitre.
Ben, je sais pas, mais il est vitré.
Okay.
Il fait carrément clair au métro Jolicoeur. Mais ceux dont on aurait pu penser qu'il avait été nommé en l'honneur d'ancien maire, il y a Fabre, puisqu'Édouard Raymond Fabre, libraire, a été maire de Montréal de 1849 à 1851, mais la station honore plutôt son fils qui, lui, a été évêque. En fait, le premier archevêque de Montréal. On aurait pu penser que Baudry, parce que Jean-Louis Baudry a été maire de Montréal à 3 reprises entre 1862 et 1885. Et ce qui est vraiment intéressant dans le cas de la famille Baudry, c'est que son frère Prudent Baudry a été maire de Los Angeles de 1874 à 1876. Mais le nom de la rue Baudry et donc celui de la station, c'est rappelle plus probablement Pierre Baudry qui était propriétaire du terrain. Souvent, c'est aussi plate que ça pour les noms de rues et par extension, les stations de métro. Mm-hmm. Quelle station de métro porte le nom d'un ancien maire de Québec?
Lucien Laillier?
L'Angelier. Charles L'Angelier, qui a aussi été actif en politique fédérale et provinciale.
Mais oui, mais Lucien Laillier, c'était pas une bonne réponse? Non?
Non.
Non, c'est Jean-Paul.
Non, il n'a pas été maire.
Il n'a pas été maire.
Ah, c'est Jean-Paul, ouais.
quelle station de métro porte des noms d'explorateurs?
Ben, Radisson.
Oui, Pierre-Esprit Radisson. Ou La Salle, dont j'ai parlé la semaine dernière.
Jean Talon, ça compte pas, c'est un intendant.
Cadillac.
Ok, oui, c'est vrai.
Qui était notamment commandant du fort Michilimackinac et fondateur de Détroit. Et Pierre Lemoyne d'Iberville.
Ah, d'Iberville. Okay.
Mais on aurait peut-être pu penser Joliette.
On aurait pu, mais tu vas me dire que c'est
pas le métro
Joliette,
c'est pas l'honneur de Louis Joliette, c'est en l'honneur de Barthélémy Joliette, à qui on doit le nom de la ville aussi, qui était notaire à l'Assomption et fondateur de la ville qui porte son nom.
Barthélémy, ok.
Quelle station de métro porte le nom d'un ancien patriote? Ça, là, il y a la réponse dans une
Papineau?
Chronique que j'ai faite cet été. Et non.
OK. Attends,
c'est Cartier, à Laval. Parce qu'avant d'être repère de la Confédération, Georges-Étienne Cartier a été un patriote.
Parce que Papineau, c'est pas le bon Papineau.
Je sais,
c'est
mais
son père.
C'est
son père. Il y a qu'à Montréal que c'est le cas. Que la rue Papineau est nommée en l'honneur de Joseph Papineau.
Je savais.
C'est encore un cas de le terrain lui appartenait.
C'est quoi
aussi plate que ça.
Le pointage, Maurice, c'est 4-4 en fait. Pour moi, c'est ça, je pense que c'est ça, 4-4. Je pense que c'est 4-4.
Je calcule plus.
Quelle station de métro porte des noms de personnes qui ne sont jamais venues à Montréal?
La Reine Victoria?
Oui.
Okay.
Non,
elle est venue.
Elle est venue à l'inauguration du pont Victoria. Faudrait que je vérifie. C'est juste le prince qui. Je mélange avec l'inauguration de la voie maritime.
Est-ce qu'elle était venue à bord d'un avion de.
Mais non.
De l'organisme, en 1859. De l'organisme d'aviation internationale?
Je me souviens plus si elle s'est présentée elle-même en personne. Pour
le
pont. Il y en
a 60.
Mais il y en a trois. Il y a le métro Peel, qui a été nommé en l'honneur de Robert Peel, un homme politique anglais, qui a notamment créé la police de Londres. C'est pour ça qu'on les appellerait les Bobbies.
Non, je savais pas.
Et il y a la rue de Castelnau, qui a été nommée en l'honneur d'Édouard de Curière de Castelnau.
Mais pourquoi?
Un général français qui a défendu avec succès la ville de Nancy contre l'armée allemande en 1914.
Franchement, changez-moi ça. Non. Écoute, on manque d'endroits. Il n'y a pas une fille qui est associée aux stations de métro. Puis là, on est en train de donner ça.
C'est ma prochaine question.
Là, on est en train de donner ça à un général que, voyons, moi, je m'insurge.
Non, mais là, il y a Côte-Sainte-Catherine. Villa Maria.
Villa Maria, c'est bon.
Il faut vraiment être tiré pour les femmes. Le cas le plus concret étant la station Victoria.
Ouais,
Square Victoria.
C'est pas une femme, c'est une reine.
C'est une reine. C'est ça. En effet, il n'y a aucune femme. Je l'ai proposé dans une autre chronique cet été. Selon moi, celui qui se changerait le plus facilement, considérant qu'on nomme les stations de métro en l'honneur de rue ou de place à côté, c'est le métro Parc, qui pourrait facilement être renommé Jeanne Mance.
Ben oui.
Sans débaptiser personne.
Bon, bravo. Ouais. As-tu écrit du monde?
Il y a quelqu'un proche de Projet Montréal qui m'a proposé en effet de transmettre ma demande à Madame Avalier.
Non, mais ça pourrait devenir la station Jeanne Mance Christiane Campagnan.
Non, j'y tiens vraiment pas. Non, mais en plus, Parc, c'est pour la rue Parc.
Ouais.
Le Parc du Mont-Royal, il y a déjà le métro Mont-Royal. Et l'autre chose complètement absente de la toponymie des stations
puis
de métro...
Puis on va finir là-dessus parce qu'on a un reportage, ouais. Puis on pourra pas...
Ce sont les Premières Nations. En
ben
fait,
oui,
dans la toponymie
clair.
Montréalaise, point, il y a le Belvédère Condiaronque sur le Mont-Royal depuis 2001. Et c'est tout. Parce que même Hunsick, c'était un Français huronisé. Donc, c'est pas vrai. Vraiment...
Hunsick, c'est un Français huronisé?
Oui.
Je pensais que c'était un chef...
Non.
Oh ben.
Alors, il y a du travail. On va mettre tous nos espoirs dans la ligne rose.
Oui, c'est surtout que la ligne rose va compenser la patente. Là. Oui, c'est vrai. Merci, Christiane, pour les infos.
Merci, Christiane. C'est gentil.
Je me suis fait démolir.
Un petit peu de musique. Ensuite, on va en savoir davantage sur l'orgue de Barbarie.
S'attachent après leur manteau, sans oublier les chapiteaux. Et dans leurs yeux, on voit les films où les moutons se jettent à l'eau. Et si tout va, pourquoi on grandit les villes de ces gens qui s'abîment
Et si tout va, où vont ceux qui ne vont pas? Tout comme les lemmings par là. Et si tout va, qu'est-ce que font les villes? Qu'est-ce que font les villes? Et si tout va chez ces gens-là? Ils vivent d'abord de leur vitrine et s'accrochent après leur manteau, sans oublier les chapiteaux.
Edgar Bory nous chantait « Métro ».
C'est presque la fin de l'émission, c'est presque la fin de M l'été, et pour la dernière fois, on va être bercé par une chronique d'Annick Filion.
Sans tambour, ni trompette.
Bonjour Luc.
J'avais oublié que ça s'appelait sans tambour ni trompette.
Bonjour Kevin.
Allô?
C'est vrai qu'on parle pas ni de tambour ni de trompette aujourd'hui.
Très bien nommé comme chronique.
Ah ouais.
C'est plus pour dire aussi qu'on est relax, on n'a pas le côte à queue officiel des habits de
il ferait trop
de musicien
chaud.
De concert. Oui, il ferait très chaud cet été. Ouais. C'est plutôt en chemise courte et, ouais. et short. Alors écoutez, donc pour ceux qui n'ont pas voyagé cet été ou ceux qui désirent prolonger leurs vacances, je vous offre une escale, oui, oui, une escale, tout compris, là, oubliables dépenses, voilà.
Je vous invite
tous. Oui, c'est sur mon bras. Je vous invite tous dans les vieux pays, rien de moins, dans la vieille Europe. Et pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, bon, parce qu'en Europe, à midi, on déjeune, voilà. Hein. Alors, on se met déjà dans l'atmosphère. Donc, je suggère un pain baguette bien croquant. Un fromage, ce que j'ose dire, bien odorant. Et une bonne bouteille de vin. Alors là, je vous laisse à votre choix. Pour accompagner l'atmosphère dans laquelle Pascal Maurice-Kahn nous plonge avec son orgue de Barbarie.
Je me souviens de quoi
je n'ai pas rencontré Pascal Maurice-Kahn sur un coin de rue à Montréal, mais lors d'un pique-nique à l'occasion de la fête du 14 juillet. Et soudain, attendez, je dois dire, du coup, le temps d'une ritournelle, je me suis retrouvée en deux coups de cuillère à peau à Paris, comme si j'étais en vacances. Il manquait que les marrons chauds.
Bonjour Annick, mon nom est Pascal Maurice-Kahn et je suis un tourneur d'orgue, c'est-à-dire un joueur d'orgue de Barbarie.
Je revois mon coin de rue aujourd'hui disparu.
C'est le seul instrument mécanique qui a été créé pour être joué uniquement dans la rue.
Je pleurais en attendant un amour de 15 ans.
Je trouve toujours un bon coin de rue. Bon, c'est la surprise. Je déballe l'instrument. Et à partir du moment où l'appareil commence à jouer, l'instrument sonne, alors là, les gens sont captivés. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours la surprise.
Et effectivement, la rue nous a joué toute une surprise. Nous nous sommes fait prendre par une ondée d'été. Et on s'est retrouvés, sous un auvent, à discuter.
Je sens tous les jours sous ma douche.
Et là, il pleut, donc ça va...
Voilà, I'm singing in the rain.
Pascal, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que l'orgue de Barbarie? C'est beau comme instrument.
C'est une belle boîte en bois. C'est une boîte magique qui fonctionne avec une manivelle. Donc à l'intérieur, on doit mettre un rouleau de papier perforé qui fait la mélodie. Donc chaque trou, chaque perforation dans la bobine représente une note. Alors ça passe sur une plaque de bois avec des trous faits à l'intérieur, comme un harmonica en fait.
Ah oui!
Et la manivelle donne un mouvement d'air à l'intérieur, il y a comme un soufflet. C'est comme si on soufflait dedans, ça fait dans chaque trou, c'est une note qui sort.
Donc la manivelle fait deux choses, elle fait avancer le rouleau et elle fait activer le soufflet.
Exactement, mais maintenant c'est plus une boîte magique parce que je t'ai expliqué tout le système.
On le dirait pas, c'est comme le secret de la caramel.
Et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire.
Toi... Alors ce qui me plaît dans l'orgue de Barbarie, c'est que un mouvement qui est sorti fin des années 80, qui était un mouvement qui s'appelle Slow Food. Ce mouvement-là a fait prendre les gens conscience que le rite effréné de la vie de tous les jours n'est pas toujours la solution. Donc l'orgue de Barbarie, c'est un peu ça. Moi, je considère ça comme de la slow music. C'est-à-dire que c'est un instrument avec lequel tu prends ton temps. À chaque fois, tu dois rembobiner ta bobine pour en mettre une autre. Tu n'es pas dans l'instantané de la frénésie d'aujourd'hui. Et qui a un son particulier, qui est très charmeur. Et tu as l'impression que le temps s'arrête quand tu joues de l'orgue de Barbarie. C'est une mélodie du passé et qui est toujours présente.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi.
L'orgue de Barbarie a eu sa grande gloire autour du 18e et 19e siècle. À l'époque, la radio n'existait pas encore. Alors, pour la population qui était plus pauvre et qui n'avait pas les moyens de se payer les concerts dans les salons, l'orgue était là pour leur apporter la musique et les faire danser et danser.
Dans les endroits plus populaires, les coins où la bourgeoisie n'allait pas particulièrement, il y avait des orgues de Barbarie où il y avait un piano mécanique au fond du bastringue et swing la baguette dans le fond de la boîte à bois.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage, me fait déconstater, je crois, par les liens du mariage.
L'orgue de Barbarie est rassembleur.
C'est Nico qui vient d'arriver.
Oui, salut.
Nico vient d'arriver. Bonjour Nico.
Juste à temps, Nico.
Je me demande si Nico Becky n'accepterait pas de chanter un brin pour nous.
Alors Nico, qui est une amie de très longue date, qui est une chanteuse reconnue sur la scène musicale montréalaise depuis des années et vient de se joindre à nous pour chanter une chanson très ancienne qui date de 1897, qui parle de lingerie féminine et qui s'intitule « Froufrou ».
Pascal Morisquan a bourlingué avec son orgue de Barbarie, partageant son amour de la musique française jusqu'au Brésil.
T'aimes les foules? T'aimes les rencontres? Qu'est-ce qui t'intéresse?
J'ai eu bien sûr les rencontres, des gens passionnants, étonnants. C'est plein d'histoires. C'est des souvenirs gravés.
Comme ton papier perforé.
Comme mon papier perforé. Par contre, lui, il peut jouer.
Il divulgue. Il laisse aller ses secrets, ton
papier
laisse
de forêt. Tout, il n'a aucun secret.
Nous nous aimions le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson.
Merci. C'est clair que c'est rassembleur.
Oui.
Est-ce qu'il y avait cessé de pleuvoir à la fin du reportage?
quand on a fini, le soleil est apparu.
Ah. C'est toujours ça. Hein?
C'est toujours ça. Et puis, il y a eu des enfants qui sont passés. Oui, c'est rassembleur.
Mais moi, j'ai été surpris, Annick, parce que je n'ai jamais entendu un orgue de barbarie qui ressemble à un accordéon autant que maintenant. Il me semble d'habitude c'est plus aigu.
Ben en fait, il y a plusieurs orgues de barbarie. Okay. Il y a des plus petits, des plus grands. Mm-hmm. Il y en a qui sont pour des salles de concert, donc qui sont vraiment immenses, énormes. Celui de Pascal a 3 octaves et il le porte en bandoulière. Donc, et c'est quand même assez lourd, 7 kilos. Ouais. Et il a choisi son orgue parce que ça ressemble justement au son de l'accordéon. Il aimait ça. Il y a des orgues qui sont aussi à flûte et mm-hmm. donc qui ont un son probablement celui-là plus aigu.
Ouais.
Donc voilà, donc chaque orgue a sa, un peu comme chaque instrument a sa sonorité intérieure là. Des fois on achète une paire de castagnettes et ça sonne différent donc autre... l'orgue de barbarie aussi, oui.
Mais le petit singe, que il me semble quand j'étais jeune on associait l'orgue de barbarie au c'était-tu un chimpanzé ou un capucin? Ça devait être un capucin.
Oui, ça doit être pour intriguer les enfants aussi. Mm-hmm. Là, parce qu'avant ça, l'orgue de barbarie était joué par les mendiants. Donc, tu sais, au 18e, 19e siècle, c'était la musique pour dans la rue. Donc, et j'imagine que c'est là qu'ils avaient des animaux aussi pour attirer la foule, etc. Ouais. Pascal se promenait pas avec son petit...
Je vais pas te poser une colle, mais de vas-y. Barbarie. C'est quoi? C'est une région? C'est un être humain qui a inventé?
Même sur Wikipédia,
ils ne le savent pas.
Je veux dire, ils s'ostinent un peu.
Okay. Dans
mais bon, certains disent barbare, c'est au sens d'étranger. Il y a toutes sortes de théories.
Ah,
là.
Ouais.
Donc, barbarie, ce serait de quelqu'un, quoi que ce soit. Tout ça, c'est faux, etc. Je ne veux pas dire une mauvaise...
Ouais. Il y a encore un mystère.
Il y a encore un mystère qui plane autour. Ce qui est bien, avoir un mystère.
Ben oui, ça ajoute au côté mythique de la chose.
Oui.
Et où prend-il ses rouleaux? Parce qu'on ne trouve pas ça chez Sam the Record Man. Là.
Non, hein.
Surtout que Sam est fermé.
Ben, son orgue vient de la France.
Ouais.
Alors, je crois bien qu'il prend ses rouleaux en France aussi.
Il les fait venir.
Il les fait venir. Et puis, lui, il en a une cinquantaine. Donc, lui, il se spécialise dans la musique française. Mais écoutez, vous avez toutes les sortes. Et puis, j'en ai même entendu sur Internet avec Bach. Tu sais, qui c'était une musique qui était faite pour être jouée sur un orgue au départ. Donc, mais il y a de la musique populaire aussi. Là. Mm. Ça devient...
Ah ouais?
Oui, il y en a plusieurs. Avant ça, c'était des tuyaux. Donc, au lieu d'être des rouleaux perforés, c'était des tuyaux. Le truc, c'est que quand le tuyau, il roule une fois sur lui-même, ben, il n'y a pas vraiment... tu sais, on ne peut pas avoir une musique de 3, 4, 5 minutes. Mm-hmm. Quand le tuyau est fini, ben, il finit quand il recommence au début.
Ouais.
Donc, il y a ça. Et maintenant, ben, il y a soit les papiers perforés qui sont tout enroulés sur eux-mêmes, ou ceux qui sortent en accordéon, là, qu'on voit, c'est plus des cartons à ce moment-là. C'est plus gros à transporter, etc.
Mais c'est coûteux.
Oh, il m'a dit à peu près une dizaine d'euros, 10-15 euros chaque.
Mais l'instrument?
Ah, l'instrument, ah, ça, il... non, je pense que c'est son secret.
Okay.
Mais il, c'est très, très... c'est très fragile comme instrument. Et puis, vu qu'on ne répare pas ça ici à Montréal...
L'effet de rareté.
Il fait ça.
Mais est-ce que tu voulais t'y mettre? Est-ce que tu voulais prendre tes économies pour t'y mettre?
Non, je l'ai, mon ghetto blaster. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympathique. T'allais dire?
Ah, mais j'allais dire, il y a des tout petits orgues de barbarie aussi. Ça m'a vraiment intrigué. Ça s'appelle des serinettes. Et c'était dans le temps, parce que les gens avaient des serins, des oiseaux à la maison, et ils voulaient leur apprendre des airs. Donc, c'est un petit orgue qui chante très, très, très aigu. Et c'était pour apprendre à son serin comment chanter. Bon, bref.
Wow.
Il y en a toutes les sortes.
Je sais pas combien de temps on a, Maurice. On a-tu le temps de poser? Ouh, 30 secondes. Je te demanderai pas où t'as trouvé tous tes musiciens tout au long de l'été, mais c'était toujours un peu marginal, un peu chantant. Gauche, c'était... Moi, en tout cas, c'était ma chronique préférée.
Des belles découvertes.
Je remercie d'ailleurs tous les musiciens. Je remercie aussi Mario et Josiane qui m'ont aidé à trouver certaines personnes.
Ouais.
Nico Becky fait toujours une apparition au Carnaval du Brésil qui est en janvier.
Wow.
Qui est en février ou mars, il faut voir. Et Pascal, on espère qu'il sera sur la rue, que vous l'entendrez.
Et toi, on va t'entendre au gré de la programmation, on ne sait pas trop où. Il reste un Aime l'été.
Demain.
C'est demain midi. Puis ensuite, nouvelle saison. Mardi.
Merci Luc.
Salut. Merci Maurice.